Bonjour à toutes et à tous. Donc, on poursuit notre cycle sur le livre de la Genèse. Et effectivement, comme Pierre-Yves l'a annoncé tout à l'heure, on va s'intéresser aujourd'hui au chapitre 11 et à l'épisode de la tour de Babel. Donc, on va d'abord lire ce texte relativement court, les 9 premiers versets du chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Et ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit: Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, qui veut dire confus, confusion, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors je vous propose sur ce texte, on va dire quelques mots, un peu tordus. Hein. On va dire quelques mots de contexte sur le texte et sur quelques généralités. Puis ensuite, ce que je vous propose, c'est finalement pour voir ce qu'on peut tirer de ce texte, de regarder d'abord l'homme et de se dire qu'est-ce que cet épisode nous dit de ce qu'est l'homme depuis Babel jusqu'à aujourd'hui. Et puis, parallèlement aussi, de se dire qu'est-ce que cet épisode nous dit de Dieu, de ce que Dieu fait à Babel, mais aussi, on verra plus spécifiquement de ce que Dieu fait à la Pentecôte et puis de ce qu'il a comme plan dans la Nouvelle Jérusalem. Et de voir à la fois ce qu'est l'homme, ce que fait l'homme et ce qu'est Dieu, ça nous donnera des pistes peut-être pour comprendre ou en tout cas esquisser des réflexions autour de pourquoi cette intervention de Dieu, comment est-ce qu'on peut comprendre cette intervention de Dieu, et puis terminer en se disant par des pistes un peu de réflexion d'application collective ou individuelle, de se demander bah, quelles sont aujourd'hui nos tours de Babel ou de se poser des questions sur ce que peut nous dire ce texte aujourd'hui. Donc d'abord, juste en introduction, un mot sur le positionnement du texte dans le livre. En fait, ce texte finit on est au chapitre 11, hein, qui termine une grande section sur l'origine de la terre et des hommes, et puis après on va basculer sur l'histoire d'Abraham et du peuple. Et puis si on se replace plus précisément dans la façon dont on avait décrit avec ces généalogies qui servent de fil conducteur, hein, on a une au verset 10, et puis juste après on aura celle qui concerne les ancêtres d'Abraham. Donc il y a peut-être un premier peut-être point à voir, c'est que vous vous rappelez peut-être quand Joël nous avait fait sa présentation sur les généalogies, il s'était notamment arrêté sur celle du chapitre 10, qui nous donne un peu l'origine des nations. Et donc au chapitre 10, on a les nations, et puis on a le fait qu'ils ont peuplé, voilà, il y en a qui ont peuplé les idées nations, ils sont répartis au chapitre 5 d'après leur langue, groupés par clan dans les nations. Donc on a on retrouve au chapitre 20, au verset 20, les fils de Cam groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Donc du coup, on avait déjà au chapitre 10 hein, cette notion de territoire et de nation. Donc on a bien une sorte de retour en arrière, ou en tout cas, hein, comme on l'a parfois, on a cette généalogie qui nous fait entrer dans ce temps des nations, et puis là on a comme un zoom ou un focus sur un événement particulier. Donc on est bien sur ce chapitre 11, un peu en amont de Genèse 10. Alors certains ont voulu placer la tour de Babel dans les descriptions de Genèse 10, notamment parce que vous avez par exemple, en fait, au temps, il est parlé du temps du partage de la terre, au temps de Péleg. C'est dans le chapitre 10, je vais le retrouver. Oui, voilà, au verset 25, hein, le nom de l'un était Péleg parce que c'est à son époque que la terre fut partagée. Certains disent, ah, bah, c'est là où la terre était partagée, donc essayer de placer Babel ici. Mais, ou après, il est parlé Nimrod qui règne sur Babel. Donc certains ont essayé de placer Babel dans finalement la généalogie de Genèse 10, mais on peut plutôt penser hein, que ça vient en amont finalement de cet événement. Donc, en amont de Genèse 10, ça pose aussi un peu une question au-delà du positionnement dans le livre, un peu du positionnement peut-être dans l'histoire. Et notamment parce que à la lecture, hein, on a un texte qui paraît un peu un peu séparé de ce qui s'est passé avant. On n'a pas vraiment les noms justement de ceux qui sont concernés, ça apparaît un petit peu avant. Et donc il y a aussi, et puis par ailleurs, je veux dire, il y a un parallèle, cette histoire, elle fait résonance avec des mythes, avec d'autres histoires qu'on a retrouvées, etc. Donc certains, en fait, ou bien on peut se dire, bah, est-ce que vraiment ça s'est passé à ce moment-là, ou est-ce que c'est pas un ajout ultérieur qui vient finalement expliquer ce qui s'est passé, ou donner un peu une réflexion, hein. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement, on a notamment quelque chose qui a beaucoup supporté un peu cette vision-là. C'est qu'on a à l'époque babylonienne des ziggourats, si je prononce bien, sinon désolé. Karine, elle sourit. Donc il y avait ces tours, hein, notamment donc à l'époque de Nebuchadnezzar, il y a eu une tour particulièrement célèbre à Babylone qui finalement et donc vraiment faisait penser à ça. Et alors je vous lis, c'est un extrait d'un livre ancien qui fait parler Nebuchadnezzar, hein. C'est « Je m'appliquais à élever l'Étéménaki, la ziggourat de Babylone, pour faire rivaliser son sommet avec le ciel. Et les peuples nombreux que Marduk m'a confiés, c'était son dieu, j'offris comme homme de corvée à Marduk pour construire l'Étéménaki, et je leur fis porter des briques. J'érigeai sa base sur une hauteur de 30 coudées, un temple haut, une chapelle sainte. J'érigeai pour Marduk, mon seigneur, au dernier étage avec art. » Donc il y a eu, en fait, notamment, voilà, à l'époque babylonienne, et donc certains disent, ah, bah, c'est qu'en exil, ils ont vu ça et puis ils l'ont ensuite ajouté à la Genèse. Mais en fait, en réalité, ce que ça nous dit plutôt, c'est que les constructions de ce type, l'idée de faire des constructions qui montent vers le ciel, etc., et bien, des sans doute courantes à l'époque de l'exil à Babylone, mais aussi courantes avant. C'est une tendance finalement qui se retrouve un peu à tout le moment de l'histoire. Et par exemple, c'est intéressant dans Deutéronome 1, un peu plus loin, quand en fait Moïse envoie des espions hein, pour voir le pays, je dis juste d'un, où pourrions-nous monter? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Donc on avait déjà un petit peu cette ça. Donc voilà, on peut penser qu'il s'agit d'une tentation récurrente, d'une ambition récurrente. Et on verra, j'ai une photo plus loin, on voit que ça dure jusqu'à aujourd'hui, hein, la tentation de faire des tours le plus haut possible. Déjà aperçu finalement de Donc, même si ce texte paraît effectivement un peu comme presque comme une parabole, comme typologique, on peut tout à fait penser aussi qu'il a été, qu'il s'est bien passé à ce moment-là de l'histoire. Pour autant, est-ce qu'il y a des précautions à prendre quant à une lecture purement littérale de ce texte-là? Oui, forcément, en partie, notamment sur l'intervention de Dieu. On a chapitre 5, hein, on a là, l'Éternel descendit pour voir la ville. Hein, on a un peu un anthropomorphisme. Là, c'est-à-dire, évidemment, c'est pas Dieu qui dit ça, puis qui descend là comme ça. Donc c'est, il y a en partie en fait un humour là-dedans, quelque chose qui vient donner du sens. Hein. Eux, ils veulent monter jusqu'au ciel, puis Dieu est obligé de descendre pour nous voir. Mais il voit bien que voilà, il faut toujours aussi le voir à travers ce style aussi. Et on peut aussi penser de la même façon quant à la lecture purement littérale. Je trouve pas ça choquant de réfléchir à la temporalité, c'est-à-dire est-ce que finalement, on peut le lire en se disant qu'à un moment donné, Dieu est arrivé, et puis tout à coup, dans un moment subit et exceptionnel, toutes les langues se sont brouillées, ils n'ont plus pu se parler. Ou on peut aussi penser que l'histoire ramasse, résume une sorte de délitement et de division qui s'est faite à travers des langues qui sont faites. Ce ne serait pas choquant non plus, en tout cas, ça, pour moi, ça ne change pas. Donc on peut avoir à la fois une vision historique et pour autant penser qu'on peut prendre parfois enfin, des interprétations différentes par rapport à la littéralité de l'histoire. Mais dans tous les cas, les deux grandes questions, il me semble, qui se posent, en tout cas, tel que je propose de les partager, c'est d'abord la place de l'homme par rapport à Dieu. Et un peu en sous-thème ou en sous-jacent, il y a cette idée de la ville, de la cité, puis de la technique, de la technologie. Et puis il y a un deuxième grand sujet qui est peut-être même le premier, puisqu'il est plus directement, c'est cette idée d'unité, d'uniformité des hommes versus la dispersion. Hein, cette idée de voilà, tous au même endroit dans le même projet ou dispersés. Et avec comme thème sous-jacent, un peu comme question, celle des langues. Donc c'est un peu ces questions-là, mais pour les traiter, je vous propose donc de voir d'abord quelques réflexions sur l'homme à travers cet épisode de Babel aujourd'hui, puis sur Dieu. Alors je relis en fait le début de cet épisode qui concerne vraiment la manière dont les projets de ces hommes. Donc après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Et ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Donc, il me semble qu'il y a quatre choses qui ressortent, en tout cas, j'en ai vu quatre par rapport à ce que fait l'homme, qui sont vraies à Babel et qui sont vraies dans toute l'histoire humaine. La première, c'est se faire un nom, ça va parler de ça. La deuxième, ce serait d'atteindre ou de remplacer Dieu. La troisième, c'est de refuser la place donnée par Dieu ou le rôle donné par Dieu. Et puis la quatrième, c'est la façon dont l'homme s'appuie sur son intelligence et sur la maîtrise de la création accordée par Dieu et voilà, cette question de la technologie. Donc d'abord, se faire un nom. Donc, se faire un nom, donc... Christophe l'a mentionné, attends, on est un peu un jeu un peu dans la Genèse à travers ces points-là. Un peu avant, on avait dit, voilà, on commença, ils commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Et puis après, on a des contrastes entre ceux qui veulent se faire leur nom et puis d'autres qui mettent en avant le nom de Dieu. Et notamment, Christophe l'a mentionné la semaine dernière. Juste après, on aura Abraham hein, qui part vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel. Donc lui, il part justement. Il construisit un hôtel en honneur de l'Éternel. Il fit appel au nom de l'Éternel et puis il continue par étapes. Et puis en contraste, du coup, enfin, en parallèle avec ce qui est fait à Babel, on avait Caïn un peu avant qui construisit une ville à laquelle il donna le nom de son fils Hénoc. Hein, il avait dit, là, il y a la manière, on veut placer son nom, continuer son nom, etc. Donc, il y a vraiment cette question du nom, de se faire un nom, d'exister par soi-même et puis de passer aussi un peu à la postérité. Hein, voilà, faisons-nous un nom. Avec cette idée aussi que si on se fait un nom, eh bien on ne sera pas dispersé. Donc peut-être un peu une idée de protection, de défense et à la fois une façon d'exalter un peu ce que l'on est et de vouloir se faire un nom. Et on sait que... Cette notion chez l'homme de vouloir la postérité, hein, de vouloir passer à la postérité, c'est très humain. Ça n'existe pas chez d'autres créatures. Vraiment cette idée de dire voilà comment un pendant ma vie et potentiellement même après ma vie, comment je peux exister, me faire un nom. Et tu nous avais aussi beaucoup parlé des noms, Benoît, hein, de cette idée de la façon dont Dieu, au contraire, parfois a changé le nom, donné une identité. Et tu l'as rappelé aussi en introduction, Pierre-Yves. On a vraiment ce contraste entre est-ce que je reçois un nom, je reçois une identité, je reçois une place, ou est-ce qu'en fait je suis dans cette idée de me faire un nom? Et voilà où ce qui est en sous-jacent là-dedans chez ces hommes. Et puis, se faire un nom, du coup, forcément, ça, ce qui suit immédiatement aussi, c'est se faire un nom un peu contre ou à la place de Dieu, ou en tout cas penser qu'il y a une certaine rivalité entre ça. Et donc, il y a cette idée d'atteindre ou de remplacer Dieu. Et là, c'est cette idée de dire hein, dont le sommet touche le ciel. Et c'est pas anodin. Et vous voyez que dans l'extrait de dont je parlais de Nebuchadnezzar, il y avait aussi cette idée. Hein, on monte jusqu'au ciel, hein, cette idée-là. Et finalement, en réfléchissant à ça, on peut voir il y a un peu deux façons dont on a cette idée d'atteindre ou de remplacer Dieu. D'abord, c'est vraiment de manière directe, c'est-à-dire on veut être à la place de Dieu, où on veut être en haut. Et ça, c'est intéressant de voir, par exemple, que c'est quelque chose qui, justement, va bien après Babel. Hein, c'est pour ça que je dis l'homme de Babel aujourd'hui. Mais j'ai remis ce verset de l'Épître aux Romains qui dit, dans un contraste entre la justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi, Paul a cette phrase, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ce serait en faire descendre Christ. Hein, si je veux monter au ciel, c'est parce que je veux prendre la place de Dieu. Okay? Et là, on retrouve vraiment, et donc en l'occurrence, ensuite avec la pleine connaissance de ce qu'était Christ qui est au ciel, qui est là, bah, voilà, en fait, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Il n'est pas besoin que tu montes au ciel parce que Christ y est. Après en être descendu pour être venu nous chercher. Et donc là, par contre, à ce moment-là, ils sont dans cette même ambition qui était le tu seras comme Dieu, je veux monter au ciel. Donc ça, c'est soit directement. Et puis, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que tous les hauts lieux, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les rois, chaque fois qu'ils construisent des hauts lieux, qui se mettent sur les hauteurs, sur les montagnes, bah, très souvent aussi, c'est pour des faux dieux, justement. Donc ça, c'est une autre façon de remplacer Dieu. Ce n'est pas directement, mais c'est en créant des faux dieux qui le remplacent et qui nous sont un peu plus agréables. Parce que un peu plus contrôlable. Et donc c'était le cas des hauts lieux, c'était le cas donc de l'extrait dont je vous ai parlé, de Nebuchadnezzar, où il a fait cette tour et en même temps il dit bah, je l'offre à mon Dieu et c'est une manière de voilà il y avait toujours ces faux dieux qui étaient un peu en lien. On le retrouve donc dans Nebuchadnezzar, je vous ai lu tout à l'heure un extrait qui est un livre historique, mais quand on voit dans Daniel 3 dans la Bible. Je le lis, alors là c'est pas à propos de Zaziwa, mais c'est à côté. C'est pourquoi au moment où tous les peuples bon, je verrai tout à l'heure, mais dans Nebuchadnezzar, on a cette idée aussi de faux Dieu et que lui-même presque devient aussi le Dieu. Et je trouvais intéressant de voir le contraste avec ce que dit David à propos du temple. Il va construire le temple, et il veut construire ce temple-là, c'est finalement Salomon qui va le faire. Et dans 1 Chronique, il a cette expression. Mon fils Salomon est jeune et faible, et la maison qu'il s'agit de construire pour l'Éternel doit élever bien haut son nom et sa gloire dans tous les pays. Vous voyez, on a vraiment cette distinction de est-ce que je construis pour remplacer Dieu, ou est-ce que, comme le fait David, je construis pour élever au contraire le nom de Dieu. Donc se faire un nom, remplacer Dieu, et puis si on continue, il y a aussi. Évidemment, c'est un petit peu lié, mais refuser finalement la place donnée par Dieu ou le rôle donné par Dieu. Et donc ça, c'est cette logique de dispersion, hein, quand ils disent faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés. Et donc là, c'est une désobéissance claire au mandat qui avait été donné par Dieu à l'homme. Ça avait été donné au tout début de la Genèse, et puis ça a été donné juste un peu avant, après le déluge. Hein. Ça fait partie de ce qui est rappelé en Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit reproduisez-vous, devenez nombreux. Et remplissait la terre. Donc il y avait cette idée de qui devait remplir la terre, et en fait ils refusent, ça leur va pas. Voilà. Alors pourquoi ça leur va pas? Sans doute pour garder cette puissance. Hein. Ensemble on est plus fort. Hein. On va un peu revenir sur cette idée, mais en tous les cas on voit que de manière assez constante il y a l'idée que l'homme finalement tend à refuser la place, le rôle que lui donne Dieu. Et puis, un point aussi marquant, c'est la façon dont l'homme s'appuie, à la fois dans les aspects négatifs, mais aussi positivement, sur toutes les compétences données par Dieu. Et c'est un peu. Alors, il y a eu un petit peu des mentions un peu avant, hein, Joanne nous avait dit, il y a les premiers artisans, etc. Mais là, avec Genèse 11, on a le premier projet, quoi, vraiment. Hein, on a le projet avec une première mise en œuvre, vraiment, description, en tout cas, une première description de mise en œuvre de la technique, de la technologie, finalement. Donc, je trouve que c'est assez intéressant que dans ce livre de la Genèse, où Dieu veut nous donner les grandes lignes de ce que va être l'histoire, bah, il nous parle de la technologie, parce que quelque part, cette créativité, la façon dont l'homme s'appuie sur la création, et puis la. Crée à partir de la création avec ses briques et puis la force collective. Hein, on voit ce qui se met en place, l'organisation, etc. C'est quand même une caractéristique humaine aussi très importante, très forte finalement, et potentiellement très, très positive, très créative. Et en même temps, très vite, là dans ce texte, on voit que cette capacité-là, elle peut être détournée de ce pourquoi Dieu l'avait donnée, premièrement, et puis elle est fragile. Parce qu'elle reste finalement soumise à la volonté de Dieu. Et donc, on a l'impression de une espèce de rouleau compresseur là, qui se met en place, mais qui en même temps est très très vite arrêté quand Dieu décide de l'arrêter. Donc, on a cette tension-là entre cette force, cet aspect positif, et aussi cette fragilité, finalement, et ce risque de détournement. On a aussi un lien, je trouve, entre la technique et la cité, la ville. Hein, c'est dans la cité, c'est des lieux qui sont des lieux à la fois de regroupement humain. On sait que dans l'histoire, c'est aussi beaucoup dans les villes, les lieux sont formés, les idéologies. Hein, et Paul va aussi jouer là-dessus, en étant très présent dans les villes, qui sont un peu les carrefours de la création des idées des hommes. Donc on a déjà aussi ça à travers cet épisode. Et alors, face à ça, deuxième partie du verset, du passage, je relis. Donc plutôt, hein, on avait eu cette première partie plutôt sur le projet humain, puis ensuite à partir du verset 5, on a la réaction de Dieu, je relis. L'Éternel descendit pour la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, et voici qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Donc, avant d'essayer de donner un peu des pistes pour d'interprétation, peut-être voilà, de manière un peu descriptive, déjà, voyons comment Dieu agit ici. Et puis, voilà, je vous propose aussi de voir ensuite la Pentecôte et puis le projet de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem pour avoir une vision un peu plus d'ensemble de ce que Dieu dit à propos de ça, pour mieux comprendre Babel. Voilà, pour comprendre Babel en ayant une vision un peu plus large dans l'histoire de ce qu'a fait Dieu. Mais si on reste sur Babel, bah, la première chose, on voit que Dieu reste très attentif à l'homme, hein, reste attentif au projet de l'homme. Voilà, il voit ce qui se passe. Il est là. Et donc, voilà, on a parlé de toute l'histoire, des aspects à la fois positifs et tragiques de l'histoire. Et bah, c'est un rappel que Dieu suit ce qui se passe. Il est attentif au projet de l'homme et il est en contrôle. Il est en contrôle parce qu'au moment où il va vouloir intervenir, où il va vouloir influer le cours de cette histoire qui est en train de se faire à Babel, il le fait. Donc il est attentif au projet de l'homme, il est en contrôle. On voit qu'il a une vision de long terme. Hein, les voici qu'il faut. Rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. On voit que Dieu regarde ce qui est, il anticipe ce qui va être, et il se dit alors il faut faire quelque chose. Donc il a cette vision de long terme pour l'homme. Et ça, c'est toujours important aussi de se le rappeler. Même si on sait, voilà, Dieu a une vision de long terme pour l'histoire, pour moi, mais aussi pour l'ensemble des sociétés et de l'homme. Mais alors, pour le coup, c'est vrai que quand on lit ça, cette vision de long terme, elle peut paraître un peu défensive. Hein, on a l'impression que, on va y revenir, que Dieu est un peu en défensif là, par rapport à cet homme conquérant. Et elle peut sembler aussi, à cette vision de court terme, enfin de réaction de court terme, un peu paradoxale, parce que quelque part, diviser les hommes, créer de la mésentente entre les hommes, ben on se dit, ben, ça va aussi créer ben, justement des divisions, des conflits. Donc, pourquoi faire ça en fait? Pourquoi ça? Alors peut-être que justement, avant de dire pourquoi, c'est intéressant, bon, on va pas voir tout le plan de Dieu sur tous les aspects, etc. Mais si on reste un petit peu sur cette idée à la fois qui est au cœur de Babel, de ses langues et de la dispersion, c'est quand même, il me semble important aussi de penser à Acte 2, de penser à ce qui se passe à la Pentecôte. Donc, je vous ai mis là un extrait dans Acte 2. Donc c'est un extrait dans les versets 3 à 11. Hein, donc la Pentecôte arrive, hein, ils sont tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, et à ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Et un peu plus loin, verset 11, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Donc là, à la Pentecôte, on voit que, y a une intervention de l'esprit qui va permettre de surmonter la différence de langue. Donc Dieu intervient positivement, explicitement pour surmonter la différence de langue. Et pourquoi? Pour que il puisse proclamer l'évangile, pour que l'évangile puisse être proclamé. Et cet évangile, il est fait pour être à tout le monde, à toutes les nations. Et Christophe l'a rappelé aussi, on a parlé de cette foi d'Abraham qui était pour tous. Donc vous voyez que oui, clairement, Dieu a une volonté, à un moment donné, d'unir tout le monde et d'apporter à tout le monde. Et il a cette idée d'unité. Alors c'est intéressant parce que dans l'acte 2, il supprime pas les langues, hein, chacun entend parler dans sa propre langue, donc il conserve en fait une... Il va pas jusqu'à l'uniformité, si, comme c'est une valorisation aussi de la pluralité, mais par contre, il surmonte ce qui était cet obstacle à la compréhension qu'il avait eu à Babel. Et il le fait au moment où cet évangile doit être proclamé à tout le monde. Et il le fait dans un cadre qui est celui de l'Église, et il le fait dans un cadre où ceux qui sont réunis là, ceux qui écoutent là, le son pour écouter les merveilles de Dieu. Et plus tard, finalement, dans l'état éternel, alors, s'il me posait un peu la question, je répondrai pas, parce que je pense pas, mais est-ce que les langues disparaîtront? Hein, est-ce qu'il y aura encore des langues? Alors, on a ce verset d'un Corinthiens 13, si on le lit un peu vite, on se dit, ah ben non, il n'y en aura plus. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc, ah ben, les langues cesseront, donc il n'y aura plus. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus difficile parce que la connaissance cessera, ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtra plus rien. Au contraire, on aura la connaissance parfaite parce qu'on sera avec Dieu. Mais la connaissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, Paul nous dit, telle qu'on en a besoin pour essayer d'arriver à, il n'y aura plus besoin. Les prophéties, il n'y aura plus besoin. Donc, de la même façon, les langues cesseront. C'est aussi dans ce contexte d'un Corinthiens 13 où c'est les langues pour surmonter des difficultés aussi de compréhension ou pour pouvoir adorer Dieu. Donc, on ne peut pas être sûr à partir de ce verset que les langues cesseront. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, et ça, on a plusieurs versets dans l'Apocalypse, notamment, pas dans la description de la Nouvelle Jérusalem, mais dans ce qui y conduit, on a plusieurs versets où Dieu réunit dans la louange qui lui est faite toutes les peuples, toutes les langues, toutes les nations. Il chantait un cantique nouveau, notamment Apocalypse 5. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et toute nation. Donc ce qui est clair, c'est qu'il réunira les peuples et les langues dans cette nouvelle cité, et il le fera sans risque de division, et il n'y aura plus de risque de rébellion non plus contre Dieu à ce moment-là. Donc du coup, voilà, c'est un peu rapide, mais pour montrer que voilà, ce Dieu qui, à Babel, a cette vision qui peut paraître un peu défensive ou paradoxale, c'est aussi celui qui, à la Pentecôte, surmonte cette différence de langue pour la proclamation de l'Évangile et qui a en tête une cité dans laquelle il y aura toutes les peuples, toutes les langues, toutes les nations. Donc du coup, comment, à partir de ça, comment comprendre, c'est un peu orgueilleux de dire ça, mais comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre, de tracer l'intervention de Dieu à Babel? Ouais, peut-être trois, voilà, trois choses que... D'abord, trois choses que... Trois pistes, et une à écarter, c'est le fait que Dieu ait peur. Hein, c'est l'intervention justement défensive, Dieu qui dit, oulala, malheur, ils vont arriver jusqu'au ciel, et quand la tour sera jusqu'au ciel, ils vont rentrer là, ils vont rentrer chez moi, et puis ils vont me mettre en bas, et voilà. Bon, ça, on oublie ça. Et là, il y a justement toute l'ironie un peu du texte, hein, avec Dieu qui descendit, et puis on a l'impression voilà, qu'il arrête ça, voilà. Donc Dieu n'a pas peur, ou plutôt Dieu n'a pas peur pour lui. Par contre, dans un sens, est-ce que Dieu n'a pas peur pour les hommes? Façon de parler, évidemment, quand je dis qu'il a peur pour eux. Mais il me semble que l'intervention de Dieu, elle est d'abord là pour protéger l'homme de lui-même et le protéger des dangers de l'uniformité, de cette concentration-là. Donc, pourquoi on peut dire ça? D'abord, c'est un peu quand même quand si on se retouche, si on revient sur le texte, hein, on voit bien les voici qui forment un seul. Voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Dieu protège l'homme de lui-même parce que ce qu'il est en train de faire va contre le plan de Dieu. C'est vrai. Mais voici contre l'intérêt de l'homme. De plusieurs façons, peut-être, et c'est ce que je vous propose de voir. D'abord, parce que ce qu'on voit, c'est que cette uniformité, cette concentration de l'homme, vraiment, je trouve que, de manière claire, elle va avec une soif et une impression de toute-puissance. Hein, on voit qu'ils sont tous là sur un projet, et puis on va monter. Donc il y a cette impression de toute-puissance, Et une toute-puissance qui, du coup, ben, là, quelle est la limite de cette toute-puissance? Ben, à un moment, il faut s'attaquer à Dieu. Hein, on s'attaque d'abord aux autres hommes, puis une fois qu'on a. Mais si on est ensemble, c'est quoi la frontière ultime? C'est finalement s'attaquer à Dieu. Et du coup, s'attaquer à Dieu, ben, c'est la rébellion un peu ultime. Or, qu'est-ce que Dieu a dit juste avant? Il a dit, je ne détruirai plus la terre et la création. Il a dit après le déluge. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça qui peut dire, non, non, non. Ne les laissons pas en fait tous ensemble aller jusqu'à cette confrontation ultime avec moi parce que et donc on arrête les frais avant et c'est une première je pense une première façon de voir comment Dieu protège l'homme de lui-même. La deuxième elle est pas dans le texte hein, directement mais je trouve quand même qu'elle peut être une piste pour moi intéressante c'est chaque fois que aussi il y a une concentration des pouvoirs de l'homme et tout souvent il y a du totalitarisme aussi. On voit justement Nebuchadnezzar, il s'est fait une statue, quoi. Tous ceux qui ont... Alors, je ne mets pas tout le monde sur le même plan, mais je veux dire, si vous prenez les grands leaders, ceux qui ont constitué des empires, César, Napoléon, Hitler, avec différentes motivations, etc., mais on voit bien qu'à un moment donné, cette concentration, elle va souvent de pair avec une forme de totalitarisme ou un risque de totalitarisme, de pouvoir absolu. Et aussi pour, du coup, qui va se traduire par une... par le fait de défier Dieu, mais qui va aussi se traduire en général par un traitement des peuples qui est très 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 négatif et très oppressif. Donc peut-être que aussi cette dispersion de l'homme, c'est vrai que ça crée aussi des conflits, etc., mais ça crée aussi des contre-pouvoirs, ça fait aussi que voilà un dirigeant, il voit aussi qu'il y a d'autres pays, d'autres peuples, d'autres forces, et ce sont parfois aussi des limites à ce que font les uns et les autres, et des limites au totalitarisme. Une troisième piste, peut-être aussi, pourquoi protéger de lui-même, bah, c'est cette uniformité, cette concentration, c'est peut-être aussi un appauvrissement de l'expérience humaine. C'est-à-dire que dans ce que Dieu veut, c'est réfléchir sur la dispersion, pourquoi Dieu veut qu'il se disperse, et il veut aussi qu'il soit partout sur la terre, alors d'abord il y a qui s'occupe de la terre et tout, et donc finalement aussi avec une variété d'expériences, une variété d'histoires, et puis on le voit, une variété de cultures, et peut-être que aussi on peut se dire que Dieu en fait valorise ça, hein, je disais dans un commentaire, c'est en se séparant en groupes distincts que les hommes arriveront à développer dans toute leur diversité et leur richesse les facultés dont le Créateur les a doués. J'ai bien aimé cette idée aussi. Et c'est vrai que quelque part aujourd'hui, je trouve, quand on voit des gens, quand on voit d'une autre culture, d'un autre pays, bah, en fait, ça nous fait voir les choses différemment, ça nous enrichit aussi. Et donc, peut-être que voilà, c'était aussi dans le plan de Dieu qu'on ait cette variété-là et qui a une valeur aussi pour Dieu. On le retrouve d'ailleurs un petit peu, alors c'est un peu différent, mais dans la première épître de Pierre, c'est à propos de la louange, hein, mais il y a cette expression. Alors, c'est à propos des dons que l'on a. Hein. Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Cette expression de la grâce variée de Dieu. La grâce variée de Dieu, peut-être ça peut être aussi à travers notre diversité et notre variété. Et puis, peut-être quatrième piste, protéger lui-même, parce que dans cette concentration, bah, il y a le risque que l'homme utilise mal aussi la technique. La technologie, et puis qui délaisse un peu le rôle d'entretien de la terre, puisque le fait d'avoir dispersé, c'était aussi pour que l'homme s'occupe de la terre un peu partout. Et on sait que, alors, des fois, on s'est occupé très très mal de la terre, et on a fait beaucoup plus de mal que de bien, mais toute une partie de l'action humaine sur la terre peut être aussi positive. En tout cas, Dieu l'avait pensé comme ça. Donc, on peut aussi penser cela. Et puis, un peu plus court, mais essayez, je pense que l'intervention de Dieu aussi, on peut la comprendre comme le fait que finalement, il accomplit son plan de salut. C'est le fil, hein, le fil qui commence dans la Genèse d'accomplir le plan de salut. Pourquoi on peut dire ça? D'abord, si on pense qu'il reporte un peu la rébellion de l'homme, ben, voilà, il reporte dans sa patience la rébellion ultime de l'homme, hein, en les dispersant. Et puis, cette dispersion, elle va conduire notamment à la distinction d'un peuple parmi d'autres qui va conduire à Christ. Donc, c'était aussi dans son plan de Dieu que ça se déroule comme ça. Et puis, c'est un peu ce que je crois que tu en as parlé aussi, Thibaut, ce matin. Tu l'as évoqué, je crois, dans une prière. C'est cette idée que finalement, voilà, Dieu dit, ben non, vous qui montez au ciel, ça ne marche pas. C'est pas ça. Mon plan, c'est moi qui vais devoir descendre. sur terre. Et donc il acceptera, lui, de le faire, de s'abaisser, alors qu'il était au ciel pour nous sauver. Donc quelque part, c'est aussi un petit peu ça que nous dit Babel, c'est-à-dire c'est pas comme ça. Et il y a un autre moyen, mais c'est moi qui vais le fournir, et c'est moi qui vais descendre. Et du coup, finalement, c'est pour ça que je disais qu'il le protège de lui-même, et il n'a pas peur pour lui, mais plutôt peur pour nous. C'est que ce que nous rappelle Babel, c'est que Dieu veut notre bonheur, mais il veut notre bonheur à notre vraie place. À notre vraie place par rapport à lui-même, et du coup, par extension, à notre vraie place les uns par rapport aux autres, finalement. Alors du coup, pour terminer, mais en lien, quelques pistes un peu d'application, ou de se dire, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on peut penser de ça aujourd'hui? Juste parce que je sais pas, c'est un peu loin. À gauche, il y a un extrait d'article sur la cryogénisation et la capacité de pouvoir donc se faire cryogéniser pour se faire ressusciter au moment où on saura régler toutes les maladies. Là en bas, c'est la Trump Tower. Et puis à droite, c'est la plus haute tour du monde. Donc elle est à Dubaï. Elle fait 828 mètres, donc entre 2 et 3 fois la tour Eiffel quand même. Voilà. C'est pour, Alors, trois pistes que je vous propose, trois réflexions. La première, c'est cette idée de se faire un nom versus honorer le nom de Dieu. En fait, je trouve, ça peut être je trouve, une réflexion collective ou individuelle. De manière collective, je trouve que quand on revoit Babel, on se dit que finalement, Dieu a créé l'homme avec de magnifiques capacités, à la fois individuelles et collectives. Avec une capacité de penser sa place, de penser son destin, de mettre en place des stratégies, des projets. Et puis Dieu aime l'homme. Donc, en un sens, je trouve qu'on ne peut qu'être humaniste, en fait, dans ce sens-là. Mais finalement, ce que nous dit Babel, c'est quel humanisme, quoi? Est-ce que c'est l'homme qui va chercher à glorifier l'homme, être son propre maître, dépasser ses limites? Ou est-ce qu'on doit aimer l'homme et être humaniste au sens dans sa capacité, finalement, la capacité humaine à se mobiliser pour et à s'aligner au projet de Dieu, en fait, pour l'homme? Et du coup, voilà, il y a vraiment cette question de se dire à quoi les hommes se mobilisent collectivement, mais je pense qu'il ne nous est pas demandé de mépriser les efforts des hommes à Babel, finalement. Mais plutôt, je me suis dit, de travailler autant qu'on peut, en fait, parce que nous, on est aussi dans cette communauté humaine, de travailler autant qu'on peut, sans illusion sur ce qu'est l'homme, mais sans cynisme non plus, à ce que, finalement, notre communauté humaine, elle perde pas de son énergie à se faire un nom, mais qu'elle s'épanouisse dans le rôle que lui donne Dieu. Et ça, on peut le voir donc un peu collectivement, enfin, mais c'est pas qu'une réflexion collective, et du coup, voilà, je propose juste de se dire, de se poser la question par rapport aussi à nos propres efforts et nos propres choix. Voilà. Ben oui, souvent je travaille à me faire un nom, en fait. Ça peut être le cas dans mon travail, justement, ça peut être le cas dans mes relations, ça peut être le cas dans ma famille. Je peux faire plein d'efforts ou de choix. S'ils sont là, en fait, pour en retirer une reconnaissance ou un avantage, ben finalement, je travaille à me faire un nom. Et donc de ce point de vue-là, Babel me parle, Babel nous parle aussi. Alors que finalement, et c'était un peu ce que tu as rappelé aussi Pierre-Yves en introduction, c'est dire que Dieu nous dit qu'on a déjà un nom, on a un nom qui est caché, on a un nom qui est inscrit dans le livre de vie, en fait, qui nous a donné, on a déjà une identité. Et donc que ce qu'il nous demande, c'est pas de ne pas avoir de nom, c'est de dire mais vous en avez déjà un, c'est un autre, donc perdez pas votre énergie à vous faire un nom, vivez le nom que je vous ai donné, en fait, le nom d'enfant de Dieu. Mais du coup, je trouve, voilà, cette idée de se dire, voilà, dans mes priorités, à quel moment je suis en train de me faire un nom, finalement, je me suis dit que c'était quelque chose qui parlait assez facilement. Enfin, moi, je peux vraiment dire ça. Et ça ne veut pas dire, juste pour finir là-dessus, que ça veut pas dire que, comme Dieu nous dit de ne pas nous faire un nom, c'est qu'il faut être, faut surtout pas avoir d'ambition, pas de projet, pas de compétences, etc. Je pense que pas du tout ça, hein. C'est pas du tout d'être. Je veux dire, il y a dans la Bible et ailleurs plein qui ont honoré le nom de Dieu avec des destinées humainement exceptionnelles et des projets extrêmement ambitieux, en fait, hein. Donc c'est plutôt vraiment se dire, voilà, c'est pas renoncer à se faire un nom, ça veut pas dire être misérabiliste, mais Finalement, Dieu nous invite à nous libérer de ce mensonge empoisonné du tu seras comme Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il revient, finalement. Peut-être une deuxième chose, c'est comment on valorise l'altérité, la diversité. Donc ça, c'est plus l'aspect que j'ai découvert dans ce texte, parce que j'avais plus l'idée, voilà, ils cherchent à être comme Dieu et tout, et moins cette idée, ils ne veulent pas se disperser, ou je ne savais pas trop quoi mettre derrière. Et donc j'ai trouvé intéressant cette idée de dire que finalement, bah oui, Dieu valorise en fait cette dispersion, cette variété humaine. Et donc du coup, bah, nous, moi, je dois aussi valoriser et profiter de cette différence, de cette altérité en fait que Dieu a voulu a créer entre les hommes. Dieu nous a voulu aussi comme remplissant la terre, donc ça veut dire que on ne doit pas être resserré sur notre nation, notre territoire, notre coin de terre en fait. Parce que le plan de Dieu, c'était bien qu'il y en ait partout. Donc on a parlé de l'étranger ces derniers temps, on sait aussi les tentations un peu de repli qu'il y a un peu partout. Donc voilà, Babel nous rappelle que Dieu a voulu qu'on soit chacun l'étranger de quelqu'un d'autre en fait, forcément, puisqu'il a dispersé tout le monde. Et que finalement, en tant qu'on est un peu tous partenaires dans l'accomplissement du projet de Dieu, puisqu'il a voulu qu'on soit chacun à des endroits différents avec des plans, des projets différents. Effectivement, s'il avait pu le faire sans mettre des langues étrangères différentes, moi ça m'aurait bien arrangé au collège, au lycée, et à chaque fois je galère en conf-col avec des anglais, mais voilà, c'est ça que Dieu a voulu. Et puis le dernier, c'était peut-être une réflexion pour finir sur la technologie. Alors on est plus ou moins fasciné par la technologie selon les personnes, mais je pense quand même que on peut souvent l'être, hein, pas par les mêmes choses aussi, mais je pense qu'on est beaucoup aussi à l'être parfois ou souvent fasciné par la technique, par la technologie, par ce que nos sociétés arrivent à inventer en fait, à déployer. Et évidemment, on peut admirer cela. Et en fait, on y contribue aussi parfois dans. Après, certains y contribuent dans nos, voilà, dans nos boulots, dans nos, tout ça. Mais ce que nous rappelle Babel, c'est d'être attentif au risque du sentiment de toute puissance de l'homme par la technologie, en fait. C'est peut-être un peu bateau, mais c'est quand même important. Et donc, on peut se demander collectivement, mais aussi pourquoi pas individuellement, quels sont nos tours de Babel, en fait. Dans quelle mesure, peut-être à un moment donné, mes compétences ou les compétences de la société, à quel moment elles me fascinent tellement, je les trouve tellement incroyables, que je ne suis pas en train de dire que oui, bah finalement, elles vont pouvoir remplacer Dieu. Elles vont pouvoir être plus fortes que Dieu. Il y a eu une phase hein, au 19e et puis 20e siècle aussi où le progrès technique était mis un peu comme presque un. Ça a un peu remplacé Dieu comme idéal. Hein. Alors aujourd'hui, on est plus critique sur le progrès technique, mais en même temps, c'est quelque chose qui structure tellement en fait nos sociétés. Et puis on a encore, sur le projet de cryogénisation, mais il y a des aventures technologiques aujourd'hui qui sont à la fois fascinantes, mais qui interrogent aussi les limites à donner. Et cette notion de limite, je pense, est importante en fait. Donc évidemment, c'est pas de traiter la technologie en bloc, hein, je suis pas en train d'appeler à démanteler la tour Eiffel, ou, voilà. S'il y a un lien entre la technologie et le sentiment de toute puissance de l'homme, bah peut-être ça veut dire que voilà, être sensible à cette question des limites, accepter qu'il n'est pas toujours sage spirituellement d'aller plus loin, même si techniquement on pourrait aller plus loin. Le fait qu'il soit possible de faire quelque chose, nous en tant que chrétiens, c'est pas un critère suffisant. C'est dans ce sens-là qu'on ne doit pas être à la remorque en fait de cette technique. Voilà un peu sur quelques réflexions sur Babel. Et je trouve, voilà, pour finir juste sur cette idée que finalement, Dieu qui vient, qui descend, qui voit tout, et qui dit, OK, là, il va pas falloir que ça se passe comme ça. Et ils ont sans doute pas compris, Babel, enfin, ils ont rien compris du tout, du coup, forcément, après, ils ne se comprenaient plus. Mais même nous, quand on regarde, on comprend pas trop. Mais en fait, Dieu sait, il a cette vision de long terme dans laquelle on doit être convaincu qu'il veut notre bonheur. Il veut notre bonheur à notre place, et cette place, c'est celle qui nous fait, et qu'il est venu nous faire aussi en descendant, lui, sur la terre quand on en avait absolument besoin.